Le Peterbos, pour nous, c'est un endroit où on s'amuse tous les jours.
Les salles, on a vraiment quasi rien, à part la maison de jeunes et un petit local où on peut aller de temps en temps.
Par exemple, le terrain qui est juste là, il est délaissé complètement.
On essaie de donner la meilleure image du quartier. Car quand tu vois sur internet, tu vois Peterbos, etc., c'est n'importe quoi en fait.
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des éducateurs qui ont su parfois me tirer, m'aider, me pousser vers le haut.
Après, tu fais le choix. Ou tu fais comme des gens qui te tirent vers le haut, ou tout simplement, il y en a d'autres qui te tireront vers le bas.
Ils sont considérés comme les jeunes du quartier. Ils vivent ici entre les 18 blocs à appartements de la cité du Peterbos. C'est chez eux, mais ils manquent d'infrastructures pour s'épanouir dans cet endroit isolé, enclavé. Peu avant l'hiver, leurs cris et leur insouciance se sont un peu arrêtés. Après deux grandes opérations de police, en novembre et décembre dernier, les uniformes se sont installés dans le quartier. Une omniprésence pour tenter de casser un trafic de drogue organisé qui s'est décomplexé dans les cages d'escalier ces trois dernières années. Avec des guetteurs, des vendeurs, des fournisseurs et leurs responsables. Des jeunes ont été arrêtés, 17 personnes au total sont actuellement en détention préventive dans l'attente d'être jugées. Et il y a les autres, cette jeunesse bousculée, qui tente de trouver sa voie en évitant les travers de la rue. Je m'appelle Tom Denis, je suis journaliste à la RTBF. Vous écoutez Le Peterbos, un paradis artificiel, un podcast immersif dans les allées d'un quartier de Bruxelles assiégé. Pour m'accompagner, Jérémy Van Belleghem est à la création sonore. Troisième et dernier épisode, les grands frères du Peterbos. C'est mon dernier jour dans la cité. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les jeunes dans un local situé le long du terrain de basket. On l'appelle le préfab. J'interromps une partie de jeu de cartes Uno. L'atmosphère est chaleureuse.
Le Peterbos pour nous, c'est un endroit où on s'amuse tous les jours.
On s'amuse tout le temps. Déjà ici au quartier, il y a après l'école où on peut y aller pour faire nos devoirs et tout par rapport aux études. Et ensuite, comme aujourd'hui, on a eu activité. On est là avec tous nos potes, on s'amuse et on a aussi entraînement. Et c'est de tout âge. Là, on est chez les plus grands, mais aussi pour les plus petits.
Je me sens bien ici depuis que je suis née ici là. On fait tout ici, on passe notre temps. On fait tout, on joue au foot et tout. Il y a activité, il y a tout.
Et puis il y a Hamza, plus âgé que les autres. Il veut me parler, mais à l'écart.
Dis, on se met dehors comme ça, que je te montre comment il est le quartier.
Il prend une balle de foot sous le bras.
Et ici, comme t'as vu, on était dans le préfab. Et quand on était jeunes, on venait ici, on jouait à Uno, on jouait à la PlayStation. Et en même temps, on faisait des sorties comme cinéma, piscine. C'est vraiment assez sympa, quoi. On a bien été encadrés, surtout avec Reda. Puis t'avais son frère Younes Dabi. Et aussi Khalid. On joue au foot, ce qui est plein de jeux. On s'amusait vraiment bien, quoi.
Ouais. Pourquoi tu parles au passé? C'est fini aujourd'hui?
Non, c'est pas fini en fait. On essaye maintenant, vous voyez, maintenant il y a des jeunes. Et comme tout ce qu'on a appris, on essaye de leur donner à eux. Parce qu'ici, le Peterbos, il est aussi connu dans le futsal. Parce qu'on a vraiment eu une équipe il y a 2-3 ans. On était en 3e nationale. On peut nous monter en 2e nationale. Quand t'as pas de sport, t'as un autre chemin, tu vois. Et quand t'as un autre chemin, tu vas pas à l'école. Et ça, c'est vraiment très dommage. Et là, on donnera tout pour les petits. On leur montre les bons exemples. La vérité, s'il y avait vraiment des personnes comme Reda dans tout le quartier vers Anderlecht, Skarbek, etc., Bruxelles serait une autre image. Mais malheureusement, tu as des quartiers qui sont délaissés.
Si tu commences pas à faire du sport, par exemple, qu'est-ce que...
Ça dépend, hein. Il y en a...
Il s'interrompt, puis continue une nouvelle fois de parler du football, de son importance pour les jeunes, pour ne pas sombrer. Hamza veut surtout me montrer quelque chose, le terrain synthétique placé au milieu de 4 blocs d'appartements.
C'est là que tout commence en fait.
Voilà, exactement. Quand on était petit, on était à 10h du matin, 9h du matin, on sortait. Ouais. Et tu sais comment on faisait pour se réveiller? Tout le monde. On chatait le ballon dans le grillage, tu vois. On entendait boum, boum. On chatait dans le grillage. Automatiquement, on entendait et tout le monde sortait. Et quand tout le monde sortait, on était en moins 50 ici. Hein. Et c'est que des matchs, que des matchs. Ça fait au moins 10 ans qu'on attend pour qu'ils rénovent. On aimerait que le terrain soit rénové pour les petits qui grandissent. Tu vois? Quand tu rentres ici, tu crois que tu es en France, mais rien à voir. Juste qu'ils font rien. Et c'est ça le problème avec... ça fait 15 ans, on attend, ça fait 15 ans, ils disent ouais, on va faire ça, mais ils font rien. Attention aussi, il y a de la boue.
Après cette discussion stratégique pour Hamza, il me ramène au préfabriqué, à la rencontre de Reda, l'éducateur qui l'a aidé à ne pas s'égarer. Reda fait partie de la bande, il taquine les autres avec la bienveillance que parfois partagent les grands frères avec leurs cadets.
Il la boule de cartes.
Je travaille à la maison de jeunes depuis maintenant 2010, donc ça fait 11 ans.
Pourquoi tu t'es investi à fond alors dans ce quartier ?
Ben, premièrement parce que je suis né ici, donc il y a quelque chose qui me lie avec le quartier. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des éducateurs qui ont su parfois me tirer, m'aider, me pousser vers le haut, justement pour faire des études et continuer à faire du sport et de ne pas tomber dans les travers de la rue. Moi, je pourrais donner des exemples de plein de jeunes qu'on a su sortir, on va pas dire des ténèbres, mais de situations très compliquées, où on a su recréer un projet socio-professionnel avec ces jeunes pour pouvoir justement les relancer dans la société. Parce que voilà, parfois, ils n'ont pas tous les outils pour pouvoir trouver un travail ou suivre une formation ou alors même discuter avec des gens. Donc, on essaie de mettre plein de trucs en place pour leur faire comprendre qu'ils sont capables de faire des choses. Donc voilà, maintenant, j'aimerais bien, à mon tour... Passer le flambeau.
Reda tient également à me montrer l'école des devoirs et me présenter deux autres jeunes bénévoles, Ashraf et Zineb. Peut-être ce sont eux qui prendront cette relève nécessaire. Cette rencontre a lieu au rez-de-chaussée du bloc 17A.
Au niveau des infrastructures, vraiment dans le quartier, c'est vraiment une catastrophe, on ne va pas se le mentir. Il y a vraiment tout le monde qui en a besoin, que ce soit les jeunes, plus petits, même les grands qui savent très bien que leurs enfants ont besoin de... Voilà, d'extérioriser par rapport au foot ou même par rapport aux activités.
Ils nous promettent beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas d'actes, comment nous pouvons nous réjouir des trucs qu'il n'y a pas ? La parole, c'est bien, mais nous voulons aussi du mouvement.
Un contrat de quartier a pourtant été acté par la commune pour rénover le Peter Boss, le rendre plus convivial. L'idée est de rénover certaines cages d'escalier, retaper les terrains de foot et de basket, ainsi que la salle de boxe et les locaux de la maison des jeunes. Le projet est de créer également une nouvelle salle multisport, une cafétéria pour les rencontres et une vaste crèche pour les plus jeunes du quartier. Mais tout ça prend du temps et les enfants grandissent.
On aimerait bien que ça se fasse le plus vite possible. Déjà le pôle sportif, nous on pensait qu'à la fin du contrat de quartier en 2023 il allait être prêt. Mais on vient d'apprendre qu'ils doivent d'abord encore, avec les architectes, ils doivent encore regarder comment faire et que ça va prendre plus de temps et que, à mon avis, ça va prendre encore minimum 4-5 ans. Le terrain de foot, c'est dommage parce que moi, j'ai donné ma parole aux jeunes comme quoi l'argent était débloqué, que le terrain allait être rénové. Et à un moment donné, les jeunes me prenaient pour un menteur parce que chaque année, les années passaient, mais le terrain n'était pas rénové. Donc voilà, on attend. Maintenant, ils ont dit qu'une fois que le bloc 16, qui est ici à notre droite, sera entièrement rénové, ils vont attaquer le terrain et c'est une histoire de un mois. Je pense que c'est juste enlever, remettre une voie synthétique et faire les grillages. On espère que ça va se faire.
Parce que l'enjeu est énorme pour ne pas laisser ces jeunes à la merci de personnes moins bien intentionnées. Khalid El Adawi est le coordinateur de la Maison des Jeunes. Il est la première personne que j'ai rencontrée au Peter Boss. Ces jeunes qui dérapent, il les connaît très bien.
Si vous me posez la question à moi, pour moi, ça reste des victimes, clairement. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font ? Pour exister, il faut posséder, il faut avoir. C'est le modèle qu'on leur vend au quotidien, que ce soit via les médias, que ce soit via la société, clairement. Quoi. Donc, ils veulent aussi exister. Un des moyens les plus faciles, c'est ça. Donc, il y en a d'autres qui vont le faire autrement. Il y en a d'autres qui vont chercher la facilité aussi. Dire à un jeune d'aller conduire un bus de la STIP pour 1500 euros, 8 heures par jour, il va vous rire au nez. Non, je veux le million tout de suite. Pourquoi ? Parce que tout le monde là, de manière individuelle, sont des gens super bien. Quoi. C'est vrai qu'ils ont des difficultés, il y a des problèmes derrière... Il y a des problèmes familiaux, il y a tout ça. Il y a ce bagage qui l'aura apporté. On sent une souffrance, clairement. Quoi. La deuxième famille, on va la chercher où ? Eh ben, c'est dehors, dans le quartier, clairement. On veut appartenir à un groupe, on veut exister à travers ce groupe-là. Encore une fois, en disant ça, 99% des gens dans le quartier font des choses de leur vie. Quoi. Ils se prennent en main, font des études, font des jobs étudiants, essaient de s'en sortir. Et malheureusement, il y a toujours une minorité qui glisse, qui tombe, qui n'arrive pas à se relever.
Pourquoi vous avez décidé de rester ici ?
Au-delà d'un travail, pour moi, c'est un engagement. On a beaucoup de positifs, on sauve beaucoup de jeunes. Et sans nous, sans ce travail-là, je ne sais pas où ils seraient maintenant. Donc quelque part, voilà, on est utile.
Une oreille attentive pour ne pas qu'ils dérapent. Les éducateurs du Peter Boss, dernier rempart contre les travers de la rue. Mon immersion se termine ici au Peter Boss. J'y ai découvert un quartier animé, bousculé par la précarité, désinvesti des pouvoirs locaux. Mais ceux qui y vivent, ils en ont la force, vont pouvoir se relever. Vous venez d'écouter le troisième et dernier épisode de la série « Le Peter Boss, un paradis artificiel », un podcast RTBF réalisé par Tom Denis et Jérémy Van Belleghem. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et pour d'autres podcasts, rendez-vous sur le site de la RTBF.